R22 tout le monde présente
relecture
en réécoute. Antenne Kiasma.
D'abord, je vais vous dire une chose, vous avez l'air d'être plus ancien que moi ici, au fond. Je veux dire que vous connaissiez les lieux avant que je les connaisse, moi. C'est déjà pas mal, donc vous avez déjà un peu de, comment dire, d'ancienneté sur moi. Ça vous paraît pas évident, parce que je suis quand même largement votre aîné, quoi. Eh bien non, dans le lieu, c'est vous qui avez été les premiers. Alors, moi, je suis philosophe et écrivain. Bon. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour qu'on fasse semblant de savoir ce que ça veut dire. C'est parce qu'on va essayer ensemble de voir ce que ça veut dire. Hein ? Voilà. Et on n'est pas forcé d'apprendre quoi que ce soit là-dessus. Simplement, c'est que je vais essayer de vous dire de quelle façon je fais ce qu'on appelle de la philosophie et quel rapport ça entretient avec Kiasma, pourquoi je suis à Kiasma, et que je fais de la philosophie et de l'art, en fait. D'une manière plus générale, je fais de l'art. Là, par exemple, depuis quelques jours, je suis en répétition avec deux musiciens, pas très loin d'ici, à Bagnolet, et pour Kiasma, pour une forme de philosophie que je vais faire, mais en concert de musique. Oui. Vous voyez, donc, la philosophie, c'est pas que des choses lointaines, obscures, etc. Ça peut être un concert. En tout cas, ça peut l'être parce que j'ai décidé que ce soit comme ça. Et j'espère que ça sera réussi, voilà. Alors, ça pour déjà vous donner une petite idée du fait que vous n'êtes pas en train de rencontrer, vous savez, un exemple de philosophe. Il y en a des exemples de philosophes, mais moi, je ne suis pas exemplaire de rien du tout. Alors, d'abord, on va dire que comme il s'agit de faire, non pas connaissance seulement, on n'aurait pas trop le temps, mais que vous essayez de voir avec moi qu'est-ce que ça veut dire, ça, la philosophie, on va essayer de s'organiser un peu différemment. Donc, au début, il y a une première chose à vous dire, c'est que j'ai été professeur de philosophie à l'université, et puis j'ai quitté l'université. Bon, pour des raisons qui ne sont pas accidentelles, c'est que je pensais avoir à faire mieux ailleurs. Donc, je suis parti ailleurs. La question que vous pouvez vous poser, si vous avez un raisonnement de bon sens, c'est est-ce qu'il est parti ailleurs parce qu'il était mieux payé ? Pas du tout. Pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Est-ce qu'il avait plus de congés ? Pas du tout. Est-ce que... Non, pas du tout. Rien à voir avec ça. Ma réponse est très simple. Je fais de la philosophie parce que c'est la chose que je préfère faire parmi les autres. Et deuxièmement, j'ai quitté l'université pour la faire mieux. Ça m'a valu de gagner beaucoup moins d'argent. Et j'en suis content. Sachez-le, je gagne parfois pas un radis, mais ce n'est pas le problème. Ma vie est beaucoup plus intéressante. Voilà, ça c'est déjà la philosophie. Ma vie est donc beaucoup plus intéressante que si je faisais quelque chose de moins intéressant pour plus d'argent. Ça vous laisse perplexe, peut-être, mais des fois, ça vous dit quelque chose. Je vois bien dans vos yeux que quand même, ça répond à quelque chose dans votre esprit. Vous avez peut-être des parents qui font comme moi. Ils ont préféré quelque chose de plus passionnant que quelque chose de mieux payé. Bon, ben, c'est comme ça. Oui, vas-y, dis-moi.
Moi, mes parents, enfin, maman, elle est prof de philosophie, mais elle est restée. Ouais.
Mm-hmm.
Parce qu'elle aimait beaucoup la philosophie, mais elle préférait instruire des gens de philosophie.
Ben, du coup, ça lui a permis d'être plus disponible pour toi, par exemple.
Voilà.
Ouais. Moi, je dois dire, bon, j'ai fait tout ce que je me suis vraiment beaucoup amusé avec mes enfants. On a passé vraiment beaucoup d'années de bonheur. Mais c'est vrai que parfois, j'étais moins disponible parce qu'au lieu d'aller le matin, travailler au lycée ou à l'université où j'enseignais, ben, je partais en Hongrie, je partais en Russie. Enfin, c'était compliqué, quoi. Je menais une vie plutôt d'artiste. Alors, puisque tu connais tout ça. Un dernier mot sur moi, entre guillemets, et la vie d'artiste. Il faut bien comprendre que la philosophie, ce n'est pas un métier comme la maçonnerie, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des choses matérielles. Je sais fabriquer des cloisons, hein, ne croyez pas, je suis même plutôt doué pour ça, faire de la maçonnerie. Quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de maçonnerie pour pouvoir vivre. et aussi parce que je préfère avoir plus d'argent que les bourses. Bon. Mais la philosophie, ça ne consiste pas à fabriquer quelque chose. Et puis, ce n'est pas sérieux, comme on dit, comme les mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques, on sait que 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 3, ça fait 7. Bon. Nous, écoutez bien, mais ne le prenez pas complètement au sérieux.
2 plus 3, ça
fait
5.
Oui, c'est ça. Et 1 plus 1, ça fait 11 en philosophie.
Ah, d'accord.
Mais non, c'est 1 et 1, ça fait 11.
C'est ce que je dis. 1 plus 1, ça fait 11.
Non, 1 plus 1, ça fait 2.
Ah, eh bien, en philosophie, si tu écris 1 et 1, ça fait 11. Ah, tu vois, ça change tout. Hein.
Alors,
pourquoi je vous dis ça? Eh bien, pour vous dire que la philosophie, ça consiste à garder un éclairage ou un panorama, comme si vous regardiez un grand panorama, très, très ouvert sur les choses. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous dis 1 et 1, ça fait 11, vous me dites, non, ça fait 2, arrête, quoi. Oui, peut-être, bien sûr, mais le chiffre 1 et le chiffre 1 à coller, ça fait le chiffre 11. Et là, c'est plus pareil. C'est-à-dire que je suis obligé d'admettre qu'il y a une autre figure que celle à laquelle me conduit le raisonnement mathématique, qui serait 1 et 1, ça fait 2. Et ça, c'est un raisonnement. 1 et 1, en philosophie, ça fait une figure qu'on appelle 11. Mettons 2 et 5, ça fait 25, ça fait plus 7, du coup. Bon. C'est pas des mathématiques, la philo. Hein. C'est pas pour compter. Hein. Pas pour compter de la monnaie quand on sort du commerce. Hein. C'est simplement pour vous dire que, tiens, curieusement, on fait apparaître des choses différentes avec le langage. Bon, alors, pourquoi maintenant essayer d'explorer cette chose? Moi, je crois que le plus simple, quand il y a une assemblée comme ça, c'est de se dire que je ne vais pas vous dire ce que c'est que la philosophie, mais qu'on va essayer d'en faire un peu ensemble. C'est pour ça que je crois que la philosophie, savoir ce que c'est, was ist das, des philosophies, c'est une chose extrêmement compliquée. Et les plus grands philosophes, lorsqu'ils font un morceau de bravoure, essayent de traiter cette question. Qu'est-ce que c'est que ça, la philosophie ? Donc vous imaginez bien que je ne vais pas le faire avec vous pour vous éblouir, vous écraser la tête et vous montrer qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui parle et on ne comprend rien à ce qu'il dit. On n'est pas là pour ça. Par contre, on va faire de la philosophie. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et pour commencer à faire la philosophie, il faut se donner des moyens. Et les moyens, c'est que, vous voyez, bon, vous êtes à l'école, vous commencez. Moi, j'ai pratiquement jamais cessé d'être en train d'apprendre. Parce que ça me plaît, parce que je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'en savais trop ou pas assez. Je continue à essayer d'apprendre. Et ensuite, parce que c'est un bonheur. Alors, avant que je revienne là-dessus, je voudrais vous dire, vous pouvez m'interrompre dès que vous voulez, mais il y a une règle. Si vous m'interrompez pendant que je parle, quelqu'un peut dire non-stop, s'il vous plaît. Vous pouvez vous coaliser, ça veut dire vous rassembler, à 2, 3, 5, réfléchir à quelque chose qui vous paraît complexe, vous en parler entre vous un petit moment, pas trop longtemps. Et un d'entre vous me dit, voilà monsieur, on a réfléchi à ce que vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, qu'on ne comprend pas. Ou alors ça ne va pas, on n'est pas d'accord. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que je suis seul, je suis plus âgé, j'ai plus d'expérience, et ce n'est pas tout à fait normal qu'on fasse comme si on était égaux. Ce serait tricher entre nous. Ça commence comme ça, la philosophie. Repérez la tricherie, des fois. On n'est pas égaux. Vous commencez à apprendre, et moi j'ai 63 ans, vous imaginez un peu quand même que... Mais mon problème n'est pas de me mettre à votre niveau ou de vous mettre à mon niveau, c'est de construire ensemble un niveau, vous voyez ? Construire quelque chose, moi, on va essayer de voir comment on fait. Donc, s'il y a quelque chose qui vous échappe, ou vous sentez que, oulala, il faut que je réfléchisse, il faut que vous preniez le temps de réfléchir. Pour ça, il faut m'interrompre. Et moi, je m'interromprai, j'attendrai que vous ayez réfléchi un petit peu, pas l'après-midi entière, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit peu, vous... Et puis, vous dites, voilà, il y a quelque chose comme ça que j'aimerais comprendre. Et je changerai de chemin, s'il le faut, de mon raisonnement. S'il le faut, j'irai, bon, d'accord. Si ça vous paraît plus intéressant qu'on le traite et que ça, il faut y aller. Et on va traiter ça. Vous avez bien compris le système. Bon. C'est comme si je vous apprenais l'existence d'un parlement, par exemple, vous voyez, où il y a une question qui est traitée, et puis vous dites, oulala. Là, je voudrais comprendre mieux, alors je vais discuter avec mes copains. Et ensuite, il y en a un d'entre eux qui va dire, monsieur, voilà, on vient d'examiner la chose. Est-ce que vous pourriez préciser ça? Ou bien, nous ne sommes pas trop d'accord avec ça? Ou bien, il nous vient ça à l'esprit. Bon, deuxièmement, alors je continue maintenant, donc pourquoi je parlais de ce plaisir qui serait les pensées. La première chose, vous savez, dans la... qu'on expérimente, c'est-à-dire qu'on vit profondément dans la philosophie, c'est le fait que penser, on ne fait pas exprès. Vous comprenez ça, que penser, on ne fait pas exprès. Bon. Vous savez, les chênes, par exemple, ils fabriquent des truffes. Les truffes, c'est un champignon d'une valeur considérable, auquel on attribue une valeur considérable. Mais le chêne, il ne fait pas exprès de faire des truffes. Hein. Ben, la pensée, on lui accorde parfois une valeur considérable, mais on ne fait pas exprès. Mais on peut la travailler. C'est comme la faculté de chanter. On peut la travailler, cette faculté. Disons que là, parmi les arts, on peut travailler la faculté de faire des sons, de les arranger, de les produire et de faire de l'harmonie avec, comme la musique. On peut faire de la peinture, on peut faire du cinéma, on peut faire de la danse. Ce sont des disciplines. C'est-à-dire, en gros, discipline, le mot est toujours malvenu. Il faut s'entraîner, il faut travailler la chose. Ben, la philosophie, c'est pareil. Ça consiste à travailler la faculté de penser, comme d'autres travaillent la faculté de faire du football. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que ça permet de comprendre que c'est une faculté, une chose que tout le monde peut faire, et que ceux qui le travaillent beaucoup plus en deviennent évidemment un peu plus experts, enfin, ils deviennent meilleurs quoi, dans leur discipline. Vous comprenez ? C'est bien clair tout ça. Bon. Non, pas encore d'interruption de séance. D'accord. Donc, je continue. Alors, est-ce que c'est simplement pour le plaisir ? D'abord, la philosophie, ça ne traite pas que des questions du plaisir. Ça traite normalement de toutes les questions que les hommes se posent, et ça consiste à essayer de voir si ces questions se posent vraiment ou bien si c'est notre pensée qui nous joue des tours. Vous voyez ça ? Par exemple, est-ce qu'il vous arrive... Je ne vous demande pas de répondre ce qu'il faut répondre. Je vous demande de répondre si vous en avez envie. Et puis bon, non pas ce qu'il faut répondre, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous. Moi, je n'attends rien du tout de ce que vous allez me dire. C'est vous qui devez attendre quelque chose de ce que vous dites, pas moi, dans cette affaire-là qui est entre nous. Par exemple, peut-être que vous, comme, vous faites comme quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'avais tout le temps des pensées en tête. C'est-à-dire, il y avait des choses que je commentais. Je me disais, ah, si j'achète un ballon de foot, mais j'ai quand même pas un endroit pour jouer au foot, donc ça ne sert à rien que je m'achète un ballon de foot avec les 3 sous d'économie que j'ai. Donc peut-être il faudrait que je... Voilà, une pensée intérieure comme ça, vous voyez. Puis des fois, j'avais des pensées qui s'opposaient. Ça vous arrive peut-être aussi de penser une chose, dire, ah non, mais non, ça ne va pas. Sans le dire, en ayant à l'intérieur de la tête ce qu'on appelle un débat. C'est-à-dire, vous pensez une chose et puis vous examinez, vous dites non, ça ne peut pas. Non, ce n'est pas ça quand même. Voilà. Ça, c'est un des modèles de base de la philosophie. C'est-à-dire, une première difficulté, donc là, vous allez forcément m'interrompre, mais par exemple, lorsque je pense quelque chose, mettons, je pense, oh, la situation, on dit en France et en Europe, c'est pas brillant, l'économie. Ça se passe vraiment très, très mal, mais moi, je suis sûr que ça va s'arranger. Moi, je suis sûr que ça va s'arranger. Voilà, je dis ça. Ça ne me permet pas de savoir pourquoi j'en suis sûr. Je dis ça au plus profond de moi, je dis, non, je suis sûr que ça va s'arranger. Oui, c'est un pari. Attends, juste je finis ça, puis après je t'en parle. Je dis ça, c'est un pari. Mais... ma position de philosophe, si je travaille la philosophie comme un entraînement, comme je vous ai dit, comme un entraînement mental, consistera à dire que signifie être sûr en moi-même. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis que tu es sûr ? Voilà, vas-y.
Bah, en même temps...
Tu peux t'aider des copains et faire un parlement tout de suite si tu veux. Hein, en réunir 2 ou 3 en disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous en pensez, ce qu'ils viennent raconter ?» Ou alors parler tout seul. Comme tu...
Ça dépend en même temps. C'est que. En fait, il ne faut pas trop y penser parce que des fois, moi, j'y pense. Des fois, par exemple, quand je joue au Monopoly avec ma maman, je me dis ah, je vais gagner. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Et quand je me dis ah non, je ne vais pas gagner, exactement le contraire. Donc, à la fois, Enfin, je suis pas superstitieux. À la fois, je comprends ce que vous dites, mais à la fois, non.
D'accord. D'accord. Alors, je vais le reprendre à partir de ton exemple. Si, par exemple, bon, dans le jeu, on peut dire j'ai une certitude. J'ai une certitude. Mais la philosophie, ça ne consiste pas à se dire simplement, pour faire le malin, qu'est-ce qu'une certitude ? Ça, c'est un sujet pour le baccalauréat, vous savez. Chaque fois, hop, là, il y a des sujets comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire intérieurement d'avoir une certitude ? C'est ce que tu viens de dire. Mais finalement, des fois, j'ai la certitude que ça va marcher, ça ne marche pas. Et des fois, curieusement, je m'en fous, c'est là que ça marche. Il y a un livre que j'ai écrit, qui tout à coup, vous m'y faites penser, mais ça porte justement là-dessus. Et ça s'appelle « Philosopher à l'arc », parce qu'il se trouve que je suis devenu archer il y a 6-7 ans de ça. 7 ans, je me suis mis à tirer à l'arc et à vivre l'expérience du tir à l'arc. Du tir à l'arc, donc de nature, pas le tir à l'arc de compétition. Dans le tir à l'arc, il y a exactement cette chose-là. C'est-à-dire, quand on vise et qu'on doit lâcher la flèche, on ne peut pas le faire en se disant « j'ai réuni tous les éléments pour que mon tir soit juste ». Avec un fusil, oui, parce qu'on aligne un point, un autre point, on ne tremble pas, on retient sa respiration et boum, on tire. À l'arc, pas du tout. L'arc, c'est une sensation. Alors, comme c'est une sensation, ça veut dire que la certitude dont on a besoin pour lâcher la flèche, elle appartient à rien de raisonnable. Voilà le grand problème de la philosophie, la raison. La raison, c'est tout ce qui peut être mesuré. Je dis, par exemple, là, je peux agir parce que j'ai pris la précaution de me vêtir comme il faut, même s'il pleut, d'avoir l'arc qu'il faut, etc., etc., etc. Bon, tout ça, c'est raisonnable. L'exercice du tir n'est pas raisonnable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'obéit pas à des choses objectives. Objectives, ça veut dire à des choses qu'on peut mesurer, dont toi et moi, par exemple, on peut se dire, est-ce que cette table existe ? Ah ben, si, non, hein. Non. Puis si tous les deux on la touche, on dit, bon, c'est peut-être pas la table, mais enfin, il y a quelque chose. Ah, c'est quelque chose de solide, oui. Et avec ça, on avance. Peu à peu, on se dit, bon, ben d'accord, on appellera ça une table. Et puis voilà quelqu'un qui dit, mais ça s'appelle une table depuis très longtemps, ça. Oh, ben alors, on dit, ça va. Pourquoi vous l'appelez une table, au fait ? Et on commence, taboula, ah, taboula, pourquoi taboula ? Ah, le repas, etc. Ouh, intéressant. Vous voyez ? Donc, alors, pour reprendre cette histoire de certitude, la certitude en philosophie, c'est un problème, ce n'est pas une réponse. Un philosophe n'est pas quelqu'un qui est certain, mais c'est quelqu'un qui cherche la certitude, à savoir s'il peut s'en approcher. Pourquoi ? Pas pour lui, pas seulement pour lui. Mais quand on dit, par exemple, je vais prendre un exemple que j'ai déjà pris avec quelques enfants, parce que je le prends tout seul aussi. Est-ce que le Père Noël existe ? Voilà, c'est une certitude, il n'existe pas. Mais si, pourquoi il n'existerait pas, après tout ? Alors, je vais étendre la chose et je vais me dire, mais qu'est-ce qu'on appelle Père Noël ? Est-ce que c'est le machin, le type, qui, enfin, la chose, blanc, avec une hotte, un traîneau, une barbe comme ça, et un capuchon, qui porte des jouets ? Ouais. Voilà. Mais on peut se dire, par exemple, ah oui, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Ah, le Père Noël, il y aurait quelque chose qui ressemble à Père Noël. Qu'est-ce que c'est ? Ah, il y aurait le père, mettons, déjà. Mais alors pourquoi il viendrait que pour Noël, celui-là ? Un père qui viendrait que pour Noël. Il serait père que pour Noël, tu vois ? C'est quand même étrange, cette affaire-là, non ? Et pourquoi il fait des cadeaux, d'abord, le Père Noël, d'après toi ? On lui a rien demandé ?
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Mais est-ce qu'il ne va pas vous demander un jour quelque chose en échange ? Et vous avez l'habitude, vous, qu'on vous fasse des cadeaux sans rien vous demander en échange ?
Non.
Ben non, moi non plus, personne. Vos parents, des fois, ils vont travailler et ils vont travailler, ils filent pas leur, on leur file un salaire en échange. Ou alors c'est eux qui filent un salaire à quelqu'un qui travaille pour eux, mais il y a un échange.
Bah oui, mais pour ton anniversaire, on t'offre quelque chose, sauf que tu n'as rien à offrir en échange.
C'est vrai, mais ton anniversaire, tu peux comprendre qu'on célèbre le fait que tu es arrivé au monde et que, bon, c'est bien, allez, va, c'est bien, tu es arrivé au monde. Mais tu as raison, c'est pas si vain que ça quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas une menace ? Chaque fois qu'on reçoit un cadeau et qu'on ne peut pas le rendre. Si tu me donnes, je ne sais pas, un fond de bouteille de Coca-Cola et que j'ai très soif, je me dis, je me souviendrai de toi et un jour que j'ai quelque chose à te donner, je te le donne. Mais si moi, je te fais un cadeau absolument considérable et que je te dis non, ne me donne rien, non. C'est étrange, c'est malsain, on dit en philosophie. Parce que je te mets dans une situation où tu es inférieur. Tu ne peux pas rendre. Tu ne peux pas être à égalité avec moi. Je brise l'égalité possible. Le Père Noël, de ce point de vue-là, brise l'égalité possible. En philosophie, c'est ça qui arrive. Alors on se dit, oh, il faut que je sauve les enfants puisque je suis philosophe. Il faut que je leur apprenne que, attention avec cette affaire-là. Le Père Noël leur apporte des jouets par grande quantité. Eux, ils ne peuvent rien lui donner et ils se trouvent en état de ce qu'on appelle servitude, c'est-à-dire d'abaissement. Ils sont tout petits. Alors on dirait que pour Noël, l'échange entre le Père Noël et les enfants, c'est que les enfants restent enfants. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas à ce moment-là. Qu'ils ne disent pas, oh là, Père Noël, c'est bien beau tout ce que tu m'amènes, mais moi je suis un type grand, je te rendrai ça un jour. Mais je ne veux pas rester dans cette situation inférieure où je ne peux rien donner, toi tu donnes. Je vais vous donner un conseil culinaire comme ça, dans la même façon. Je crois qu'il n'est pas bon que les enfants ne participent pas aux tâches ménagères. Pas parce que c'est bien, non. Parce que ça veut dire qu'ils deviennent comme des parasites. Maman fait à manger, elle fait tout le monde fait tout, papa fait machin, l'enfant fait rien. Donc il ne participe pas à la construction de l'environnement de vie. Il est chez lui, mais il est chez lui comme un oiseau dans la cage à qui on donne à bouffer. Donc il n'est pas bon, pour moi, que non seulement l'enfant ne puisse rien donner au Père Noël, mais qu'il ne puisse pas échanger avec ses parents des gestes utiles, je dis bien, avec lesquels il peut dire « Attends, mais moi, j'ai fait mon truc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rangé tout dans le placard ou je sais pas, j'ai donné un coup de balai. » »«
J'ai rangé ma
chambre. » Ouais, ou même pas seulement à la chambre, j'ai vidé la poubelle. Quoi. Mais je me suis rendu utile. Ça permet de parler d'un ton un peu plus aisé que si on fait jamais rien, non ? Regardez les gens qui sont en prison. On leur demande de faire rien. Et c'est accablant pour eux. Parfois, ils aimeraient mieux... D'accord, ils ont commis des crimes, tout ça, mais... Quand ils sont dans cette situation, ils sont à peu près comme dans la situation comme les enfants, c'est-à-dire ils sont privés de la possibilité d'être entendus. Vous voyez ? Vous comprenez ce que je veux dire là ?
Ouais ? Là, c'est encore plus comme un oiseau, parce qu'on leur donne à bouffer et c'est tout.
C'est ça, c'est comme... Ouais, l'oiseau pareil. Il est dans la cage aussi, c'est vrai. Le principe est à peu près le même, mais pas pour les mêmes raisons. On n'enferme pas les prisonniers parce qu'ils ont de jolis plumages, non ? C'est assez rare. Oui ?
Pourquoi il n'y a que des professionnels qui vont au JO et pourquoi pas des amateurs ?
Pardon, j'ai pas entendu.
En fait, c'est que par exemple, le tir à l'arc, par exemple, on ne peut pas avoir la certitude de viser au centre de la cible.
Ah.
Alors, comme on n'a pas la certitude, pourquoi faut s'entraîner et tout pour y arriver ?
Ah, bravo. Voilà, une excellente question. Tenez bien compte du fait que cette question sur l'arc, je la répète si vous ne l'avez pas entendu, elle dit, puisqu'il n'y a pas de certitude quant au tir à l'arc, alors normalement, n'importe qui devrait pouvoir tirer à l'arc. Alors pourquoi s'entraîner à ça ? Et pourquoi s'entraîner sans arrêt, comme c'est le cas pour les archers ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entraîne beaucoup, vraiment beaucoup. Alors... Cette question qui n'est pas une certitude, c'est-à-dire lorsque l'on va lâcher la flèche et qu'au fond de soi, on se dit « c'est le moment », ça ne se produit pas exactement comme ça. Ça va vous étonner, mais je ne pensais pas qu'on allait parler de l'arc, mais finalement, oui. Il arrive un moment où la flèche part toute seule, c'est-à-dire quelque chose, là, dans la tête et dans le corps, a décidé et la flèche s'en va. Il est très étrange que lorsque la visée est juste, au moment de lâcher la flèche, en général, si la visée est très juste, on le sait avant. Au moment de lâcher la flèche, on dit oui, et ça marche. Alors, question, puisque j'ai été capable de mettre une flèche en plein centre de cible à 25 mètres, et que je sais, au moment où je lâche la flèche, que ce tir est bon, comment ça se fait que je ne peux pas le reproduire aussi facilement que je le veux. C'est que c'est très compliqué. Il faut, c'est ce qu'il disait presque tout à l'heure, il faut vouloir ne pas vouloir. C'est compliqué, ça. Vouloir ne pas vouloir. Il ne faut pas avoir trop d'intention parce que trop d'intentions brouillent la liberté d'esprit qu'il faut pour être dans la cible. C'est pour ça que c'est un exercice philosophique. Très compliqué, l'arc. Extrêmement. Comme exercice philosophique, c'est très compliqué. Oui, oui, oui. Tiens, tu veux que je te montre comment on tire à l'arc ? Regarde mes yeux, serre-moi la main. Non, tu as regardé ta main, mais tu peux très bien me serrer la main sans regarder tes yeux, tu vois ? Tu n'as pas besoin d'une certitude qui consiste à viser ma main. C'est ça. Là, tu vois bien ? Tu vois ? Tu n'as pas besoin de certitude. Oui, vas-y.
J'ai deux affirmations. C'est juste que... quand aussi... Par exemple, quand on tire mal une toupie qui tourne comme ça, et là, c'est une table, elle est sur une table en train de tourner, et que sans faire exprès, elle tombe de la table, elle part de la table et elle tombe dans le verre, oui. Tu peux essayer un million de fois, tu n'y arriveras plus à le refaire, ça.
Ouais.
Et aussi, c'est pas vraiment le sujet, mais quand tu as la certitude, quand tu as un tireur d'élite à l'arc qui tire sur une cible moins 1000 fois par an, et à un moment, c'est un grand spectacle, une compétition, et qui tire, il est devant au moins plus de 1000 personnes, et il rate. Mmh.
Ouais. Ah, c'est très important ça aussi. Je suis content de pouvoir en parler de choses comme ça, parce que c'est vraiment une chose vertigineuse. Ça. Mais continuez. Oui. Remarquez, si vous êtes en train de poser une question, 1, 2, 3, 4, peut-être je réponds brièvement, si on peut dire, à ça, mais clairement, le plus possible, sur la question... Oui, après, c'est certain, à moins que ce soit lié, mais même si c'est lié, c'est pas grave, on continuera après. La question de si je dois, par exemple, tirer devant 1000 personnes qui attendent de voir un exploit. Tu vas avoir affaire à deux adversaires. Enfin, deux.
Le public et la
cible. Oui, c'est ça. Non, le public et moi. Il y a deux adversités. La première adversité, c'est-à-dire la pression, comme on dit aujourd'hui, du public, c'est-à-dire là, son attente. Il va falloir que je me débarrasse de ça, déjà. Et ensuite, il va falloir que je me débarrasse de moi, c'est-à-dire de la tentative orgueilleuse qui est celle de ne pas décevoir. Il faut que je me débarrasse de l'orgueil intégralement, et ce n'est pas facile. Tu comprends ce que je veux dire maintenant ? Je me débarrasse de la pression du public, des attentes du public, je me débarrasse de l'orgueil, et je ne suis plus que la cible, l'arc et le tir. C'est tout. Si j'y arrive, ça marchera.
Mm-hmm. Tu t'occupes de la musique et de ton logo. C'est ce que j'ai fait. Mm-hmm. Et j'ai arrivé très bien. Et mon professeur aussi. Je vais regarder. Je ne vais pas regarder autour.
Voilà. Je vous raconterai dans la musique un autre exemple presque philosophique, ce qu'on appelait le free jazz. Vas-y.
Mais en fait, moi, j'ai un arc chez mon grand-père que j'ai eu pour mon anniversaire. Et en fait, je tire à l'arc. Je pense même pas à la cible et à l'arc. En fait.
C'est fait pour ça.
Et j'y arrive très bien.
C'est fait pour ça. L'arc, c'est fait pour ne penser à rien. Mais tu as raison. Ce qu'il disait, je répète, il dit j'ai un arc. Et puis quand je tire à l'arc, en fait, je pense absolument à rien. Du coup, ça marche. Je vais te dire, c'est non seulement ça, mais c'est fait pour ça, l'arc. Et c'est pour ça qu'en tant que philosophe, je fais du tir à l'arc. Parce que je reviens à la question de départ. Penser, on ne fait pas exprès. Ne pas penser, c'est une discipline rigoureuse, extrêmement rigoureuse. Et il faut beaucoup, beaucoup de travail pour ne pas penser. Alors voilà, oui. Vas-y, ou l'un ou l'autre. Ah, mais vous avez deux micros, c'est un cœur.
Exemple, vous voyez un film. Oui. Un film. Il y a quelqu'un qui est avec une arc et il ferme les yeux. Avec un arc, puis il ferme les yeux, puis il tire, puis là, il y a la cible. Puis toi, tu veux, exemple, tu veux faire pareil. Mm. Tu fermes les yeux et tu veux tirer. Mm. Ben, est-ce que Est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que tu arrives?
Alors, je vais te répondre tout de suite. Oui, on peut. Mais alors, je te jure que ça ne passe pas par ce qu'on imagine.
C'est plutôt de la chance.
Alors, non, je peux le dire parce qu'il y a un livre très, très célèbre qui s'appelle l'art zen dans le traité de l'art chevaleresque, du tir à l'arc, etc.
Oui.
D'un certain Eugène Hérégel. Et bon, moi, j'ai lu ce livre-là dans les années 70, et quand je me suis mis à tirer à l'arc, je ne savais pas que j'allais ressentir la même chose. Je te donne la parole, t'inquiète pas, tu vas avoir une crampe dans le bras. Il y aura lui et lui. Et donc, la question de tirer avec les yeux fermés est effectivement quelque chose qui vient du Japon, des maîtres d'arc japonais. N'importe quel archer vraiment confirmé doit pouvoir le faire. En France aussi, avec un tir à l'arc qui est différent, des arcs différents. La question est exactement ce que je disais tout à l'heure, il faut ne pas vouloir. Mais ne pas vouloir, ça ne consiste pas à faire n'importe quoi.
Oui.
Ça consiste à ne pas vouloir, par orgueil, réussir quelque chose. Le pire dans le tir à l'arc, c'est de tirer à l'arc avec orgueil, c'est-à-dire en se disant, j'ai mis la première flèche dans le mille, il faut absolument que je brille. Si on fait ça, on rate à tous les coups. Il faut une autre discipline mentale qui consiste à essayer de sentir cette situation et laisser faire quelque chose malgré soi. Je dis bien malgré soi.
Moi aussi, j'avais...
Et ce malgré soi, on peut fermer les yeux, ça marche. Mais bon, il faut quand même beaucoup, beaucoup d'habitude de tir à l'arc, au moins une dizaine d'années quand même. Sinon, ça ne marche pas quand même comme ça. Ouais. Alors toi, puisque oui, c'est l'ordre. Et dans l'ordre, tu étais peut-être derrière moi et avant. Dans l'ordre de prise de parole, c'est toi. Non, toi, il y a beaucoup plus longtemps.
Oui.
Je sais. Ouais,
t'as vu par exemple, moi, j'ai fait
juste
tout à l'heure.
Coupable, hein.
Moi, tout à l'heure, j'ai fait... pardon, l'année dernière, j'ai fait le concert avec Baptiste.
Quel concert? En fait, vous avez la musique partout?
Et moi, quand je suis montée sur scène, j'avais peur. Je me disais que j'allais rater. Et j'avais le trac. Et après, dès que j'ai commencé à jouer, eh ben, je me suis senti beaucoup mieux parce que c'était comme s'il n'y avait personne jouer comme en salle.
Mmh, mmh. Ce que tu appelles le trac, que je connais aussi, hein, mais bon, sur la scène aussi, bien sûr, mais pas seulement, quand il faut parfois faire des choses un peu délicates et qu'il y a une attente du public. Le trac, c'est souvent la crainte d'un jugement, c'est-à-dire de défaillir, quoi. C'est-à-dire de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a supposé de vous. Alors le problème, il est double, c'est que d'une part, on dit qu'il faut se débarrasser du trac, etc. Moi, je ne suis pas complètement convaincu de ça. Tant que vous êtes petit, essayez deux choses. Soit vous essayez de vous débarrasser du trac, soit vous vous posez la question de savoir si le trac, ce n'est pas une vraie force productive. Si ce n'est pas comme un muscle qui peut vous projeter en avant, justement. Parce que souvent, c'est ça, le trac. C'est une crainte, si vous l'utilisez bien, vous pouvez faire des prodiges avec. Oui, c'est vrai. Ça, c'est en ancien que je peux vous dire ça. Alors, toi, oui. Oui.
Au foot, pourtant, quand on a envie, on fait mieux que quand on n'a pas envie.
Quand on a envie et quand on n'a pas envie.
Non, parce que...
Moi, je ne sais pas si le sujet est tout seul, on dit en philosophie. Alors, je te résume. Quand je dis « est-ce que j'ai envie ou pas envie ?», est-ce que je suis vraiment assez isolé du monde pour que mon envie soit vraiment liée à moi-même? Ou est-ce que parfois, ça ne vient pas d'un tas de raisons qui font que tout à coup, je vais changer d'avis parce qu'il y a quelques amis ou parce que les choses ont commencé ou parce que... Mais vous remarquerez une chose, il est très rare, ça arrive, mais il est quand même très rare qu'on ait envie de faire quelque chose et qu'en le faisant, on n'ait plus envie de le faire. C'est beaucoup plus rare que l'inverse, à savoir qu'on n'a pas envie de faire une chose et quand on a commencé, on trouve ça très bien. Donc, interrogez-vous sur cette histoire d'envie. Pourquoi, dans un sens, ça marche comme ça et dans l'autre, plutôt à l'inverse? Vous voyez? Ouais, attends. Oh là là, oui, on va essayer de respecter un ordre. que j'ignore d'ailleurs, parce que l'ordre et moi, c'est des choses vraiment assez étranges, quoi. Mais vas-y.
Moi aussi, enfin, j'étais pas avec Baptiste et Léandre, mais j'ai été les voir avec Ilona. Ça se voyait beaucoup ceux qui avaient le trac et ceux qui n'avaient pas le trac. Mmh. Parce que des fois, ils étaient pas concentrés, ils regardaient que le public et passaient leur partition et du coup leur trac, ils ont encore eu peur et du coup ils étaient vraiment pas concentrés.
Ah oui, c'est étrange cette histoire. Excuse-moi, je réponds. Comment ? Parce que c'est des choses qui m'intéressent. Hein. Si je vous réponds chaque fois comme ça et que j'empêche de parler les autres, c'est parce que la question m'intéresse tout à coup. Enfin, ça m'intéresse d'y répondre et tout m'intéresse souvent. Ça, par exemple. Alors, je vais te dire une chose. C'est que moi, je fais des conférences-concerts avec des musiciens de jazz ou pop ou autre chose. Et j'improvise. C'est-à-dire que je fais comme une conférence. J'ai une trame d'idées et je la développe en fonction de ce qui se passe avec les musiciens et avec le public. Bon, je fais ça depuis une vingtaine d'années, entre autres choses, ce n'est pas mon boulot, mais je le fais parmi les choses que j'aime faire. Ce que j'ai observé, c'est que les quelques fois où je n'ai pas eu le trac, c'est les moments où j'ai été le plus mauvais. Ça, c'est certain. Chaque fois que je n'ai pas eu le trac, j'étais pas bon. C'était plat, et il n'y avait pas de sensation qui circulait entre le public et moi. Ce que je sais aussi, c'est que mes maîtres dans la musique, c'était les gens, ce qu'on a appelé le free jazz, pour vous, c'est Cro-Magnon, Lascaux, vous avez raison. Mais bon, enfin, disons que c'est une musique qui se faisait du temps de Lascaux. Quoi. Donc, il y a des noms comme ça, si je vous cite. Voilà, voilà. Ouais, ça veut dire les grottes, quoi. Bon, alors en fait, c'est un peu après les grottes. Un peu après les grottes de Lascaux, il y a le Moyen-Âge, puis après, il y a l'époque moderne. C'est là. Et après, il y a vous, et donc là, l'histoire devient autrement. Bref, donc, dans cette époque-là, il y a des gens qui ont des drôles de noms, Art Ensemble of Chicago, Coltrane, etc., etc. Sonnera, un type extraordinaire, avec des antennes sur la tête, comme ça. Et... Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils puisaient toute leur énergie dans le public. C'est là que j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la musique et dans la philosophie, j'ai appris là. Et j'ai appris ça aussi avec d'autres philosophes, qui eux étaient des vrais philosophes, avec des noms de philosophes, Roland Barthes, Lyotard, qui était mon professeur, Gilles Deleuze, qui a été mon professeur, Michel Foucault, que j'ai connu, etc. Ils avaient, à cette époque-là, ils m'ont enseigné, ou ils ne m'ont pas enseigné du tout, mais ils m'ont transmis, c'est le mot. Ils m'ont transmis cette chose, c'est de s'appuyer, comme je le fais avec vous, c'est sur votre tête, sur votre attention que je m'appuie pour vous parler. Ce n'est pas sur mon ego, ce n'est pas pour être brillant, pour ceci, pas du tout. Je m'appuie sur le fait que vous posez une question, que je suppose que vous la posez pour entendre une réponse, et que dans ce mouvement-là, il y a quelque chose qui se crée avec vous. Voilà. Et pour moi, la philosophie, c'est ça. Ça consiste à construire ensemble, avec des réponses et des questions, un mouvement dans lequel peut-être me viendra une idée avec vous qui ne m'est jamais venue. Je ne vais donc pas vous raconter quelque chose que j'ai déjà pensé, mais je vais me mettre en situation avec vous de penser à quelque chose ou à une façon de faire, à laquelle je n'avais pas pensé et qui me vient du fait que nous sommes ensemble et que j'entends dans vos questions des choses qui font écho à mes propres questions. Et je réponds avec ces échos. Dans le free jazz, c'est exactement pareil. Chez Jimi Hendrix aussi, d'ailleurs. Bon, enfin, bon, c'est autre chose. C'est juste encore un peu plus après Lascaux, un peu plus près de nous, mais très peu. Du plaisanterie, Lascaux. C'est pour vous dire que je sais bien que pour vous, c'est... Waouh ! Ouais, vieux est le mot. Old. Dans des cavernes. La musique des cavernes électroniques. Oui. C'est... Non, il y a... Excuse-moi. Oh là là, tu sais, il y a de la préséance. Alors, c'est toi ou toi ? Je ne sais pas. Débrouillez-vous. Discutez-en. Discutez-en entre vous. Voyez.
Je sais que ce n'est pas trop le sujet, mais...
Comment ? Attends. Ne toussez plus.
Quoi ? En fait, je sais que ce n'est pas trop le sujet, mais c'est un autre truc.
Ah, et tu oses. Ah, bravo.
Eh bien... Par exemple, en fait, l'imagination, en fait, on ne l'imagine pas autrement parce que, en fait, c'est un peu comme, par exemple, on n'imagine pas que, par exemple, quelqu'un comme nous, ben, je ne sais pas trop comment dire, mais par exemple, un humain, ben, on ne peut pas imaginer que ça puisse...
ça puisse, par exemple, qu'il y ait, par exemple, enfin, je sais pas trop comment dire, mais, enfin, il y a plein de trucs que, enfin, on n'y pense pas parce que, on pense directement à des choses qui sont, ben, qui sont plus.
C'est pas grave.
Je sais pas trop comment dire.
Tu reviendras tout à l'heure. Oh ouais, ça va revenir.
Moi, ça me fait penser à quelque chose. Que...
Oui, oui, oui. Alors, on touche quelque chose d'un peu abstrait, c'est qui est nos capacités. Par exemple,
je sais pas si
oui, oui, oui. Parce que justement, je pense bien que c'est un peu compliqué ce que tu veux dire, sinon tu l'aurais dit facilement, et donc c'est quelque chose de complexe. Alors, dans le mot imagination, il y a image. Mais image, ça ne veut pas dire forcément ce qu'on repère. L'image, dans le mot imagination, veut dire qu'il y a une sorte de... comme un panorama, comme quelque chose dont on pourrait dire ce qu'il y a, mais sans qu'on l'ait dit. Alors on a une sensation de quelque chose de bien précis, mais c'est une sensation et elle n'est pas encore bien décrite, cette sensation. Ce qui veut dire que l'image de l'imagination... c'est quelque chose qu'on reçoit comme une sensation très forte. La sensation très forte. C'est un peu comme tout à l'heure ce que je disais de la certitude. C'est une sensation très forte. Mais d'où nous vient une pareille sensation si forte ? Dans l'image, dans l'imagination, par exemple. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les journaux, dans le, partout, partout. On parle de l'imagination. On dit l'imagination, c'est bien, tout ça, etc. Ce qu'on appelle imagination aujourd'hui, c'est en fait créer dans la tête quelque chose d'autre que ce qui est là, avec la tête. Bon, j'ai une certaine idée de ce que deviendra l'imagination dans les siècles qui viennent, mais pour l'instant, ce que j'observe, c'est que chaque fois que quelqu'un imagine quelque chose, de plus en plus, il peut le réaliser. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très nouveau dans l'histoire de l'espèce humaine. Parce que l'espèce humaine, elle pouvait, par exemple, imaginer que voler. Oh, pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années, l'espèce humaine se disait un jour, je voudrais avoir des ailes, je voudrais voler, etc. Maintenant, on peut le faire. Pendant des milliers d'années, l'espèce humaine a dû se dire, j'aimerais bien aller voir sous avec les poissons. Et puis, très vite, on l'a fait. Puis, même à votre âge, avec un tube, un machin, vous allez voir sous l'eau, quoi. Voilà. Mais donc, il se passe quelque chose de très nouveau dans l'histoire humaine. C'est que le rapport entre l'imagination et la réalité devient de plus en plus, comment dire, collé. Je prends un exemple dont vous êtes peut-être déjà au courant, ce qu'on appelle les imprimantes 3D. Déjà, je sais que les enfants, vous êtes beaucoup plus au courant que moi de ces choses-là, mais là, nom de Dieu, j'ai vérifié. Alors, l'imprimante 3D, c'est ça, c'est-à-dire un rapport entre l'imagination et la concrétisation, la réalisation, donc le passage de l'imagination au réel, qui va être de plus en plus rapide. Ça devient vertigineux. Si j'imagine, par exemple, je me dis, ah tiens, ce que je voudrais, c'est, bon, je vais mettre la tête de machin là, etc. J'ai un scan, je vais chercher ça, je vais télécharger ça, je le passe dans la machine, et trois minutes après, voilà. Il y a un rapport entre... imaginer, c'est-à-dire de manière abstraite construire quelque chose qui est une sorte de sensation, et hop, une machine qui le fait. Ça n'a peut-être aucun rapport avec ta question, mais c'est ma façon à moi tout à coup d'entendre quelque chose de cet ordre-là et de pouvoir vous dire, c'est étrange, vous appartenez à une époque nouvelle où le rapport entre l'imagination et la réalité va être de plus en plus étroit. Et des fois, vous n'aurez plus d'imagination qu'il y aura de la réalité, et moi, c'est mon cas. Il y a de plus en plus de choses qui apparaissent que je n'ai pas imaginées, que je n'ai pas cherché à imaginer, que je n'ai pas voulu, etc. Alors qu'avant, vous voyez, il y a très très longtemps, alors là, un peu, alors là, tout juste après Lascaux, et c'est-à-dire quand les gens disaient, et si on faisait un château fort ? Il fallait longtemps, il fallait 25 ans pour le construire, mais il fallait longtemps, longtemps pour imaginer comment on va faire, etc. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire quand même un établissement scolaire, on peut le faire en 3 mois. Je ne dis pas que ça se fait partout comme ça, mais enfin, je vous le dis, quoi, sournoisement. Ouais. On peut le faire en 3 mois si on le veut. Ouais.
C'est une question. Et pourquoi, par exemple, en philosophie, au bac ou aux évaluations et tout, au lycée et tout, et ben pourquoi ils notent les idées alors que c'est...
C'est génial ce que tu dis là. Ouais, non, c'est vrai, c'est parfait, excuse-moi, c'est parfait. Je répète beaucoup plus fort pour tout le monde parce qu'elle vient de poser une question qui est une question comme une bombe, à savoir pourquoi, si la philosophie est ce que je dis, c'est-à-dire si c'est une manière de penser, de réfléchir, libre, et qui n'est pas soumise à une bonne façon de faire, alors comment ça se fait qu'on note la philosophie au baccalauréat avec des normes? Écoute, c'est exactement une question philosophique. Et c'est une question qui fait que je suis devenu philosophe en protestant contre ça, justement. C'est-à-dire que une de mes façons, quand j'étais au lycée, de réagir à la philosophie, outre le fait que j'aimais le raisonnement... Alors, la philosophie, c'est un raisonnement joueur. Faut bien le dire. Si vous voyez des philosophes qui ne jouent pas, chez qui il n'y a pas de plaisir, c'est pas la peine d'écouter ça, ça n'a aucun intérêt. La philosophie, c'est malicieux. Ça consiste à regarder... Vous savez, c'est comme... Vous voyez quelque chose, mais la philosophie, ça consiste à voir les jointures, tous les modes par lesquels ça tient. Et ne pas être dupe de l'illusion, mais en même temps d'aimer l'illusion. C'est ça qui est double. Alors, évidemment... Si on vous dit qu'il y a une bonne façon de réfléchir et qui vaut 17 sur 20 et il y en a une qui est vraiment nulle, tiens, c'est 3 sur 20, casse-toi, tu referas ton devoir, ça fait vraiment bizarre en matière de philosophie. Parce que, et je dis bien parce que, ce n'est pas si stable que ça. Parce que des gens qui ont eu des notes exécrables en philosophie ont pour autant parfois été d'excellents philosophes. Tout simplement parce que la philosophie, ça consiste à ne pas admettre l'autorité de ce qui est pensé a priori. Je précise, a priori, ça veut dire sans discussion. La philosophie, ça consiste à discuter de tout, absolument de tout, de l'existence de Dieu, de la mort, de la certitude, de la pensée, de à quoi sert la pensée, de qu'est-ce qu'un travail, de pourquoi travailler, de qu'est-ce qu'une... Tout. Ça consiste à non pas dire du mal de tout, ou dire que rien ne vaut, ça consiste à tout mettre en doute, c'est-à-dire à examiner. Donc, si je te donnerai la parole, ça consiste par exemple à déplaire. La philosophie, c'est pas fait pour plaire.
Oui.
Ça peut apporter à déplaire profondément et à avoir une très mauvaise note. Moi, par exemple, j'avais en philo ça allait, mais j'ai eu des professeurs de philosophie à l'université avec qui j'avais des notes relativement sévères parce que je n'étais pas, par exemple, je n'étais pas kantien. Kant, ça vient de Kant, un philosophe, pour lequel j'avais une aversion radicale. Je l'ai toujours, mais maintenant que je suis âgé et que j'écris, on considère que ce que j'écris est très savant contre Kant. Alors qu'à l'époque, on considérait que c'était le fait d'un jeune garçon qui était impertinent. Et j'avais des notes comme tu dis. Voilà, si je peux... Je pense à peu près t'avoir répondu que c'est un exercice de la liberté absolue, la philosophie, la liberté de penser. Mais il y a de la méthode, c'est comme l'arc, il y a beaucoup de méthodes. Et ça ne consiste pas à dire n'importe quoi, ça consiste à mettre en doute les choses et ne pas leur concéder d'autorité tant qu'on ne l'est pas vérifié. Ce que je dis est valable pour la philosophie grecque, pour la philosophie hindoue, pour la sagesse orientale et pratiquement toutes les philosophies. On n'accepte pas une autorité comme ça. On la réexamine et ensuite on la concède. Ça permet, excusez-moi de la chose, mais je crois que c'est important pour vous, qu'on vous le dise si jeune, ça permet que lorsque vous reconnaissez l'autorité de quelqu'un pour ce qu'il dit ou l'autorité d'un argument, vous le reconnaissez de vous-même. Et on ne peut pas faire mieux que quand on est convaincu. Voilà. Ah, il est là, lui. Attends.
Merci. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand on imagine quelque chose, au fil du temps, bah, ça finit par se produire, en vrai.
Mmh. Donc, parce qu'il y a une industrie maintenant de ça.
Oui.
Et c'est ça qui a changé dans le monde.
Si on imagine qu'on peut avoir des
artificielle, bah, peut-être que dans le futur, on en a.
Il y a une publicité qui disait ça. Vous l'avez rêvé, Sony l'a fait, tu sais. Ça, c'est, je crois, le plus grand mal qu'on peut faire à l'humanité, c'était celui-là. Bon, tant pis, c'est fait, c'est joué.
J'ai deux affirmations. C'est juste que, pour revenir à ce qu'on disait...
Tu parles comme ça avec ta mère ? J'ai une affirmation, elle dit une question, j'ai une réfutation. Tout aussi le fait là, ici. Continue.
En fait, quand on sait qu'on va réussir à le faire, on le fait comme ça, on fait son inventaire et tout, mais on n'y arrive pas du fin du compte. Ah. Parce qu'on ne fait pas son possible pour le faire. Mais par contre, quand on veut le faire parce qu'on n'a pas arrivé à le faire avant et qu'on se dit qu'on va encore pas y arriver à le faire, on se met tout le possible en nous pour le faire et on réussit, du coup.
Oui, je comprends bien ton cheminement, mais parfois on ne réussit pas, pour autant. Et il ne faut pas pour autant être déçu. C'est à ce moment-là qu'intervient la question du « est-ce qu'il suffisait que je veuille ?» et de quelle façon j'ai voulu ? Est-ce que j'ai bel et bien voulu ? Il me vient quelque chose en tête. C'est ce sacré Camus. Vouloir, c'est savoir vouloir. Oui, ça, c'est un truc que j'apprenais quand j'étais en philo, en classe de philosophie. C'était à l'époque Camus, Sartre, tout ça. Il y avait une phrase qui revenait tout le temps. Vouloir, c'est savoir vouloir. Bon, alors, alors on écoutait ça, on dit, c'est vrai ça, zut. Oui, c'est un peu vrai. Bon, j'ai beaucoup raillé, comme après, tu sais, ma génération, on moquait tout le temps tous les trucs qui nous étaient assénés comme ça, et puis on avait raison, parce qu'on les réexaminait intégralement, puis après, parfois, on leur donnait tout à fait raison. Pas de choses qui étaient fausses. Mais vouloir, c'est peut-être un peu, effectivement, savoir vouloir. Alors, le mot savoir est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que savoir, ça laisse entendre qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Et il y a des très mauvaises façons de faire qui aboutissent à des réussites exceptionnelles. Et il y a des bonnes façons de faire qui aboutissent à des banalités absolument inintéressantes. Tu vois ? Donc il y a une dose d'indiscipline dans le vouloir et dans la charge du vouloir, c'est-à-dire dans l'engagement de soi, il y a une dose d'indiscipline là-dedans qui ne peut pas être rationalisée au sens de la philosophie. Alors, j'en profite pour, ne sachant pas l'heure qui tourne et peut-être l'urgence que vous fassiez autre chose, pour dire un mot sur la raison, parce que si vous dites, j'ai rencontré un philosophe et il ne l'a même pas parlé de la raison, alors là, c'est la calamité totale, mais je ne vais pas en parler longtemps, de la raison. Je vais vous dire juste une phrase que vous retiendrez sans doute quand vous serez adulte, et elle vous fera rire encore comme elle me fait toujours rire. La raison, ça veut dire quoi ? C'est ce qui est né au XVIIIe siècle essentiellement, qui s'est fondé au XVIIIe siècle, à laquelle on doit d'ailleurs en grande partie la Révolution française, et qui consiste dans la pensée, et essentiellement donc on cite Descartes comme notre grand modèle national, mais bon, il n'est pas seul. Il y avait Hobbes en Angleterre, il y avait Spinoza, enfin, il y avait beaucoup de gens. Mais la raison, qui semble être accolée à la philosophie, ce serait donc un mode de raisonnement qui ne tient que sur lui-même et qui ne tient pas sur des superstitions, sur des croyances et sur la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas « le monde existe parce que Dieu l'a voulu ». Pendant longtemps, il y a une philosophie qui, effectivement, accréditait le fait que le monde existait parce qu'un être suprême l'avait voulu et l'avait constitué tel qu'il l'est. Et ensuite, disait, s'il va mal, c'est pas parce qu'il va mal et que Dieu l'a mal fait, c'est parce que les hommes s'y comportent pas bien ou parce qu'on leur a tendu des pièges et qu'ils sont assez stupides pour y tomber dedans. À peu près, c'est un peu... Et puis voilà, avec la raison, on dit non, tout ça ne va pas, tout ça ne va pas. La science elle-même commence à se développer. Et on commence à dire, tiens, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas à l'intervention céleste, mais qui tiennent au fait que l'histoire produit des événements, ces événements ont des conséquences. Et la charrette, elle est née parce que les hommes l'ont construite, c'est pas Dieu qui l'a fait descendre du ciel, pour prendre un exemple bête mais simple. Alors, On a donc associé, en France surtout, mais je dis bien en France surtout, en Allemagne également, en Italie, en Angleterre, disons en Europe occidentale, mais surtout en France, on a associé la philosophie à la raison, c'est-à-dire à ce qui ne tient que par du raisonnement et qui peut être vérifié que dans la discussion et le raisonnement. C'est une chose merveilleuse parce que ça permet de discuter comme on le fait, dire « Ah mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ça alors ?»« Ah ben oui, tiens !» Mais la raison a deux petites, comment dire, de petits endroits où ça coince. D'abord, on opposait la raison aux passions. Vous savez, la passion, ça consiste à dire les choses sont comme ça, elles sont comme ça parce que j'ai envie qu'elles soient comme ça. Et tous vos arguments ne m'intéressent pas. Ça, on entend ça même en politique en ce moment. Hein. Des gens disent « les choses sont comme je les pense et je me fous totalement de tous vos arguments et de votre histoire, de votre sociologie, de tous vos trucs, je m'en fous. Moi, je pense ça. » Ça, c'est ce qu'on appelle le régime des passions. C'est-à-dire, je n'ai pas à discuter. Pour moi, une chose est évidente et elle ne se discute pas. Bon, le problème, c'est que le choix de la raison n'est pas raisonnable. Voilà, ça vous la garderez pour vous jusqu'à la fin de vos jours, si vous voulez. Mais le choix de la raison n'est pas raisonnable. On ne choisit pas entre la raison et la passion en disant « La passion, c'est par exemple, j'ai une foi immense dans ça, et la raison, c'est je dois douter de ça, parce que pour finir bien, ça vaut rien. Et tiens, je vais préférer ce mode de raisonnement. » Ce sont des modes de raisonnement qui s'imposent à soi. Et voilà, la raison, ça se transmet par la philosophie notamment, mais aussi par... La passion, c'est quelque chose qui ne cesse pas de hanter, y compris la raison. Et la raison peut être hantée par la passion, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut utiliser la raison pour aboutir à des monstruosités. Donc la raison n'est jamais bonne en soi. Parfois, il faut cesser d'être raisonnable. Ce que je parlais du tir à l'arc n'a rien de raisonnable, absolument rien.
En fait, comme tout à l'heure, on parlait de l'imagination et vous avez dit que l'imagination aujourd'hui, c'est qu'on imagine quelque chose et c'est juste comme ça. Et donc, je me suis dit que quand vous avez parlé ça comme ça, qu'aujourd'hui c'était comme ça, mais avant c'était du coup comment ?
Ah. Je comprends. Oui, j'ai dit un peu brutalement une chose. Bah, ça, c'est mon grand âge qui me fait dire ça, parce que j'ai assisté à quelque chose d'étrange. J'ai eu une enfance comme la vôtre où on imaginait et la réalité était souvent très lointaine, tu sais. Un jour, quand j'avais à peu près votre âge, on a lancé un machin dans l'espace qui était gros comme ça, un satellite, Spoutnik, qui s'appelait, parce que c'était les Russes qui l'avaient envoyé. Alors après, les Américains en ont envoyé un autre, et puis la France aussi, un tout petit qu'ils ont appelé Pamplemousse, il était gros comme ça, et comme un pamplemousse. Donc. Et tout ça envoyait des trucs dans l'atmosphère, vous voyez, un peu avec des fusées, tout ça. C'est ce qu'on appelait la conquête de l'espace. À cette époque-là, il y avait déjà des œuvres d'imagination. Jules Verne, par exemple, et le voyage sur la Lune.
Il était déjà...
Ah non,
sur la Lune.
Quand Jules Verne a écrit ça, non. Pendant des siècles et des siècles, on a rêvé qu'il y avait des gens qui vivaient sur la Lune ou sur Mars, qu'un jour on irait sur la Lune, etc. Mais c'était un rêve, c'était une imagination. Puis un jour on y est allé. Et ce jour-là, l'imagination d'aller sur la Lune s'est éteinte, si vous voulez. Elle n'a plus eu lieu. Elle n'avait pas raison. On n'avait pas de raison de se dire un jour on ira sur la Lune, on y était allé, c'est fini. On ne pouvait pas dire non plus « un jour, on ira sur Mars, on a déjà envoyé des machines ». C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas maintenant, mais dans l'époque qui est en train de s'ouvrir, que vous, dans laquelle vous serez des adultes, dans cette époque, le rapport entre imaginer et réaliser va de plus en plus vite. Moi, quand j'étais enfant, elle commençait à aller vite déjà, hein, parce que très petit, quelqu'un a dit « un jour, un de ces jours, on va aller sur la Lune », et 15 ans après, on était sur la Lune, hein. 15 ans, mais maintenant, je pense que c'est 3 jours. Entre l'imagination et la réalité, hein, je veux dire. Je prenais l'exemple des imprimantes 3D parce que c'est une véritable accélération de ce rapport, de se dire, par exemple, bah, tiens, je verrais bien peut-être une table comme ça et comme ça, de dire, bah, tiens, on va chercher le machin, là, le plan sur Google, on le télécharge, on le fout dans l'imprimante et 30 secondes après, on construit une table. Voilà. Alors qu'avant, les gens se disaient, tiens, si on mettait une table, tu la verrais comment? Plus basse, plus haute? Ils allaient voir les magasins, ils revenaient en disant, ouais, trop grande celle qu'on a vue. L'autre, elle est trop petite. Tu vois ce que je veux dire? L'imagination et le réel, c'est un écart. Maintenant, cet écart se réduit. Alors, personnellement, ça m'inquiète. Pour moi, mais pour vous, peut-être que vous y vivrez vraiment très bien là-dedans. Je ne sais pas. Ça, je sais pas. Ben, parce qu'on désirait longtemps les choses, tu vois. On désirait les choses, alors vous mettez 2 ans à obtenir. Moi, je voulais un Solex, mettons. Bon, ah, ça, un Solex, c'était fou. Vous voyez ce que c'est un Solex, maintenant, il y en a encore. C'est un truc bizarre, c'est comme un, c'est pas un vélo. C'est un truc à 2 roues, et il y a un moteur devant, sous le guidon, et dans ce moteur, il y a un galet, ça s'appelle. C'est-à-dire un truc qui est gros comme ça, qui tourne à tout berzingue, avec des toutes petites griffes minuscules, qui entraînent la roue. Donc, il tourne tic, 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 comme ça, à l'envers, pour pouvoir l'entraîner comme ça, voilà. Eh bien, ça, c'est dans... quand j'étais gamin, quand j'avais 13-14 ans, ça voulait dire qu'on s'assied et on peut faire 60 km sans effort avec une machine qui était facile à conduire. Ça coûtait de l'argent, bien sûr. Alors, le temps de se dire « Oh, j'aimerais un Solex », vous pouvez penser tous les soirs « J'aimerais avoir un Solex ». Alors, je ferai les vendanges. Alors, après que j'aurai fait les vendanges, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je pourrais travailler... à pousser la brouette chez mon voisin, etc. Et bien voilà, pendant 3 ans, j'ai calculé et j'ai eu un Solex. Mais ce qui est beau, c'est que pendant 3 ans, il était là, le Solex. Alors que les gens qui l'achètent maintenant, ils ne le gardent pas beaucoup là. Je vais vous raconter une histoire tibétaine, tiens. Vous allez voir ça. C'est la même chose que ça, que l'imagination, mais à l'envers. C'est 2 moines tibétains qui marchent tous les deux d'un monastère. Ils vont d'un monastère à l'autre et ils ont beaucoup de routes à faire. Et comme tous les moines tibétains, ils ont fait le vœu de ne jamais toucher à aucune femme. Donc ils cheminent tous les deux sans parler, comme les moines tibétains. Ils arrivent au bord d'un fleuve et là, il y a une femme qui veut traverser le fleuve, mais qui a peur. Et pour traverser le fleuve, il faut passer à un endroit où il y a moins d'eau et ça, il faut connaître. Alors cette femme s'adresse aux 2 moines et elle dit « Est-ce qu'un de vous deux pourrait m'aider à traverser le fleuve parce que je ne sais pas nager et je ne sais pas où est le passage ?» Il y a un des moines qui dit « Pas de problème. » Il prend cette femme, il la fait monter sur son dos et il traverse le fleuve avec l'autre moine à côté. Arrivé de l'autre côté du fleuve, il descend cette femme sur la rive. Et elle continue son chemin dans son coin, et les 2 moines continuent leur chemin dans l'autre. Le temps passe, les moines ne disent rien, grimpent, chemin vers l'autre monastère, puis le premier moine, celui qui n'avait pas pris la femme sur son dos, dit, mais dis-moi, en tant que moine, tu avais fait le vœu de ne jamais toucher à aucune femme de ta vie? Et tu as pris cette femme, tu l'as mise sur ton dos. Et le deuxième moine lui dit, moi, tu sais, au bord de l'eau, j'ai pris cette femme, je l'ai mise sur mon dos. 5 minutes après, je l'ai déposée sur la rive. Mais depuis 4 heures, c'est toi qui la portes sur tes épaules. Voilà, on arrête là ?
Depuis 4 heures, il est en train de parler.
Oui, ils vont t'expliquer les autres. Comprends. C'est que l'autre, il n'arrête pas d'y penser, tu comprends? Au fait que la femme était sur les épaules. Alors que le premier, il l'a fait, il n'y a pas pensé. Alors que l'autre, pendant 4 heures, il a dans la tête. C'est ça l'imagination.
Je le mets où?
Ils vont t'expliquer. Parlez-en. Parlez-en. Il y en a forcément qui ont compris. C'est un truc d'imagination. C'est l'imagination empoisonnée.
C'est pas la logique.
Oui, entre autres, ouais, c'est vrai. Eh bien, alors ça, on est sûr qu'au moins, on ne pourra pas répondre. C'est un des rares endroits où on peut rêver encore. Mais on ne l'a pas dit, mais c'est vrai.
Est-ce que vous avez une technique pour arrêter de penser à la mort de ses parents ?
Comment ?
Est-ce que vous avez une technique pour arrêter de penser à la mort de ses parents ?
Oui, c'est vraiment trop. Ah, c'est bon, quand on est gosse, j'ai compris.
Ben, il faut simplement savoir que ça va arriver, c'est sûr.
Ah oui, en fait, j'ai compris. En fait, le monsieur, là, il porte la femme pendant 5 minutes, mais lui, l'autre, il n'arrête pas de penser.
C'est ça. Donc lui, il a dans la tête la femme.
Oui.
Tu comprends ?
Ah oui, là, j'ai compris.
T'as compris ?
Ça, c'est de l'imagination.
Voilà, c'est ça.
À peu près, j'étais jeune.
En fait, du coup, c'est mieux d'imaginer que de faire...
Souvent, oui. Souvent, c'est plus riche. Souvent, c'est moins décevant.